Donc, aujourd'hui, en ce 9e dimanche après la Pentecôte, eh bien, Jésus bouscule les marchands du Temple de Jérusalem et manifeste, comme on dit, une sainte colère face aux dérives de la religion de son époque. Et donc, sur cette esplanade qui entoure le Temple et le lieu sacré, eh bien, il y a un espace assez vaste qui est un passage obligé pour accéder au temple. Et donc, offrir un animal en sacrifice, eh bien, c'est l'action de tout bon juif qui veut se rapprocher de Dieu et qui veut effacer ses péchés. Eh bien, cette activité des vendeurs, elle rapporte effectivement beaucoup d'argent. Elle est doublée d'un impôt qui est versé au temple et elle permet de financer le temple et les religieux et les différentes activités. Alors, le geste de Jésus, il ne veut pas abolir les marchands, il ne veut pas supprimer les sacrifices. Jésus, avec ce geste, on dit il chasse les marchands du temple, en fait il les a un peu bousculés parce que très vite leur activité est redevenue normale, on pourrait dire. Mais surtout il veut attirer l'attention, notamment par rapport au peuple et par rapport à son enseignement, il veut attirer l'attention sur les dérives d'une pratique qui devient peu à peu plus importante que la véritable proximité de Dieu. Et alors, ceci n'est pas nouveau. On va dire que c'est une dérive humaine. C'est simplement humain parce que la représentation, la dimension d'extérieur, l'extérieur des choses, peuvent souvent masquer la réalité profonde ou l'existence des véritables choses. Surtout en ce qui concerne les réalités spirituelles et célestes. Donc, je dirais que c'est une réalité humaine qui est valable de tout temps. Il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas s'en offusquer plus que cela. Et d'ailleurs, Jésus, ce n'est pas le premier prophète à protester contre ça. La phrase qu'il utilise, « Ma maison est une maison de prière, dit l'Écriture, et vous en faites un repaire de trafiquants », c'est une phrase qui est tirée, qu'on va retrouver dans Ésaïe et qu'on va retrouver aussi dans Jérémie. Et on pourrait faire le parallèle avec nos églises aujourd'hui et pas seulement nos églises chrétiennes. Les structures humaines peuvent avoir la tentation, en certain nombre de circonstances, de donner plus d'importance à des aspects marchands ou des aspects économiques qu'à certains aspects spirituels. Ce qui est condamnable, ce n'est pas l'argent ou le commerce. On pense notamment, j'avais discuté avec des paroissiens il y a 2 ans, qui me disaient « Ah oui, toutes ces cartes postales qu'on vend dans les églises touristiques, tous ces souvenirs qui sont étalés, il faudrait sortir tout ça ». Ça a le droit d'exister, mais ça doit être à sa juste place. Ce qui est condamnable, c'est d'en oublier Dieu. Ce qui est condamnable, c'est d'oublier ce qui est l'essentiel, d'oublier notre véritable aspiration humaine et d'oublier tout ce qui doit nous élever vers le ciel, tout ce qui doit nous conduire sur le chemin de ce qu'on appelle la cité céleste. Et ça, c'est notre voie d'humanité, c'est notre voie d'accomplissement, et c'est pour ça qu'à la fin, on nous dit, Jésus enseigne tous les jours dans le temple. Il enseigne tous les jours dans le temple parce qu'il veut transmettre ce qui est la foi véritable, la voie véritable, celle qui s'adresse au plus profond à chacun de nous en particulier. L'Évangile, aujourd'hui, c'est une parole de sagesse et d'éternité. C'est une parole de sagesse et d'éternité parce qu'elle est valable hier, aujourd'hui et demain. Cette cité céleste, la véritable Jérusalem du ciel, il en est aussi question dans cet évangile, avec l'évocation de Jésus qui se lamente en arrivant devant Jérusalem. Il se lamente devant le désastre inéluctable qui s'approche, aussi bien celui proche de sa passion comme celui plus lointain de la prise de Jérusalem et de la destruction du temple. Là encore, Jésus, ce n'est ni le premier ni le dernier prophète juif à proclamer la ruine de Jérusalem. On va trouver cela dans le prophète Michée, chapitre 3, verset 12, dans le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 2, dans le prophète Jérémie, chapitre 26, verset 4. Vous voyez, on retrouve tout ça dans les Écritures, et Jésus s'appuie sur les Écritures pour parler et pour annoncer ce qu'il va faire, ce qu'il est en train de faire. Et on est là aussi sur l'évocation de cette Jérusalem qui va être détruite, qui est seulement une construction humaine et qu'il ne faut pas confondre avec l'espace divin et sacré qui est la Jérusalem céleste évoquée dans le paradis. Alors Jésus se distingue quand même des autres prophètes parce que ce qu'il annonce sur la destruction de Jérusalem, c'est que, en fait, c'est un rendez-vous manqué et que la destruction, elle n'est jamais inévitable, qu'il y a toujours une possibilité. Et le message du Christ, c'est l'annonce de la bonne nouvelle lorsqu'il nous dit « le royaume est proche, le royaume vient vers vous ». Il y a toujours une possibilité de rencontrer Dieu. Et ce qui importe en tout temps et en tout lieu, c'est de s'ouvrir à cette venue, c'est de ne pas se fermer à cette possibilité. Là aussi, nous sommes sur une parole de sagesse et d'éternité qui est valable en tout temps. Parce que le message du Christ, le cœur de son action, eh bien, c'est l'ouverture sur cette seconde naissance. Il nous dit, il faut naître d'en haut, il faut changer de vie, il faut changer notre façon de voir les choses. Il faut s'ouvrir à l'esprit, vivre en vérité et être pleinement pour accomplir notre humanité de femme et d'homme. Et l'épître de saint Paul, eh bien, il vient en écho à cet évangile et il vient compléter cette vision avec d'autres propos, avec d'autres mots. Mais il assemble tout ça et il lui donne un sens encore plus profond. Si on reste à reproduire ce qu'ont fait nos ancêtres, si on ne fait que reproduire, eh bien, nous courons à la catastrophe et nous allons manquer le but de notre vie. Nous allons nous détourner de notre cible, nous allons nous détourner de notre destin. Manquer sa cible, se détourner de son destin, en grec, c'est exactement la définition du mot « péché ». Nous sommes dans un sens beaucoup plus large que celui qu'on utilise habituellement. Et saint Paul nous dit « tous ces événements passés sont symboliques et leur récit doit nous servir de leçon ». Il faut s'appuyer sur les Écritures, ne pas les prendre à la lettre. Quand on nous dit « un tel et un tel ont été mordus par des serpents », en un jour, il en est mort 23 000. On se dit « mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ?» Et saint Paul nous donne la clé, il nous dit « ce sont des Écritures qui contiennent des symboles ». Et ces symboles, ils sont là pour nous dire des choses, pas pour nous parler d'une réalité ancienne, ils sont là pour nous parler d'une réalité future, pour que nous allions sur ce chemin vers Dieu, sur cette route vers la Jérusalem céleste. Et saint Paul nous dit aussi que cette route, elle n'est pas facile, qu'il y a des difficultés. Il parle de la tentation. Et il nous dit comme clé qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Et il nous dit, Dieu est fidèle. Il est présent. Il est à nos côtés. On peut compter sur lui. On peut s'appuyer sur lui. Et Dieu nous donne des outils. Ces outils, eh bien, ils sont ceux que l'on va trouver, encore une fois symboliques, dans Je reviens un peu en arrière, la messe du sixième dimanche, celle de la multiplication des pains, et à la fin de la multiplication des pains, il reste quoi? Il reste sept corbeilles. Sept corbeilles pour ramasser ce pain de communion. Eh bien, Monseigneur Durandemande, qui est un évêque gallican du XIIe siècle, nous dit, ces sept pains, eh bien, ils représentent les sept dons de l'Esprit-Saint. C'est avec les sept dons de l'Esprit-Saint, c'est en s'appuyant sur eux que l'on peut construire notre route, que l'on peut construire notre chemin de vie et notre vie de chrétien. Tout ce qui est dit, c'est ces événements et ces récits qui doivent nous servir de leçon. Et ce n'est pas le père Robert qui parle, ce n'est pas même l'église gallicane ou ce n'est pas même une autre église, ce sont les écritures qui sont ouvertes chacun devant nous tous et nous sommes tous pour les accueillir dans la sainte liberté des enfants de Dieu. Il n'y a pas de choses qui sont imposées. Ces textes, ils sont à notre disposition et c'est à nous d'en faire l'usage, comme on peut, avec notre vie, avec ce que nous vivons chaque jour, au quotidien et à différentes périodes de notre existence. Et puis saint Paul, il nous dit aussi quelque chose. Les textes aujourd'hui sont d'une richesse incroyable. Il nous dit aussi quelque chose. Il nous dit que lorsqu'on a trouvé le sens de ces écritures, ou du moins le début du commencement de la réponse à notre chemin de vie, eh bien, il ne faut pas croire que c'est arrivé. Il ne faut pas croire que, du coup, la route devient linéaire et droite. Saint Paul, il nous dit que celui qui se flatte de rester debout prenne garde à ne pas tomber. Là aussi, nous sommes avec des paroles de sagesse et d'éternité. Des paroles qui sont valables hier, aujourd'hui, demain, c'est du bon sens, c'est le bon sens de l'humanité chrétienne pour nous guider dans notre vie. Ne jamais croire que tout est accompli, que tout est arrivé. Eh bien, vous voyez, cette messe, elle a un sens, comme toutes les messes. Aujourd'hui, elle est tournée vers la compréhension de ce qui est l'écart pour nous entre la divinité et l'humanité. Cette messe, elle place notre confiance et notre demande dans le Seigneur, afin qu'il nous appuie et qu'il nous garde, afin que nous soyons heureux et joyeux d'être arrivés dans la maison du Seigneur. C'était le sens de la petite prière du graduel que j'ai prononcée tout à l'heure. Et puis aussi, c'est afin que notre route elle soit bordée par des commandements plus doux que le miel. Vous verrez, c'est la prière de l'offertoire. Et puis, afin que nous soyons unis à lui, ça sera la prière de la communion. Et afin que nous soyons éternellement dans la grâce de son unité, c'est la prière de la post-communion. Que toutes ces prières et que cette messe soient pour vous un bonheur, un enchantement et une source de méditation pour les jours et les semaines à venir. Amen.